Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Y a-t-il danger imminent pour le droit à l'avortement aux États-Unis? La Cour suprême s'apprêterait à rayer d'un trait de plume sa jurisprudence autorisant l'IVG. La fuite d'un avant-projet dans la presse électrise Washington, nous serons sur place. La gauche, toujours en conclave et sans fumée blanche ce matin, pas encore d'accord entre insoumis et socialistes pour les législatives. Tandis qu'autour d'Emmanuel Macron, les relations se tendent entre les chapelles de la majorité. Analyse à suivre dans ce journal et avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Ah oui, le haut commissaire au plan, président du Modem, François Bayrou, à notre micro avec Léa, vers 8h22, 23, et toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Le président réélu qui promet un chèque alimentaire face à l'inflation. C'est la suite de notre série sur les chantiers économiques à venir. Qui serait concerné et pour quel montant? Dans ce journal aussi, des boîtes noires dans nos voitures neuves et une course cycliste réservée au clergé.
France Inter.
Spontanément, des centaines de manifestants pro et anti-IVG se sont réunis en pleine nuit à Washington. Les médias américains, eux, sont en boucle depuis que le journal Politico affirme s'être procuré un document interne de la Cour suprême. Selon ce texte, l'instance envisagerait d'annuler un arrêt historique de 1973 reconnaissant le droit à l'avortement aux États-Unis. Ça fait évidemment l'effet d'une bombe dans la capitale américaine, même si rien n'est officiel ni définitif pour le moment. Sur place, les précisions de Sébastien Paour.
Il n'y a quasiment jamais eu de fuite dans l'histoire des délibérations internes de la Cour suprême, mais Politico assure qu'il a obtenu et authentifié ce qu'il appelle une ébauche de décision. Un texte rédigé par l'un des juges, Samuel Alito, et qui a circulé à partir du 10 février dernier entre les 9 juges de l'instance, 6 conservateurs et 3 progressistes, un projet de décision qui estime que l'arrêt Roe contre Wade est totalement infondé depuis qu'il a été rendu en 1973 et qu'il doit être annulé, que le droit à l'avortement n'est protégé par aucune disposition de la Constitution. Il ne s'agit que d'un projet d'avis. La Cour doit rendre sa décision d'ici la fin du mois de juin. Mais c'est un signal de plus que le droit à l'avortement est sérieusement remis en cause aux États-Unis, un demi-siècle après sa légalisation. Près de la moitié des États américains, notamment du Sud conservateur, ont ou vont voter des lois qui le remettent en partie en cause, comme le Texas qui interdit l'IVG depuis l'automne dernier après 6 semaines de grossesse, c'est-à-dire qu'en nombre de femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Oui, car si cette annulation se confirmait le mois prochain, les États-Unis reviendraient à la situation antérieure à 73, quand chaque État américain était libre d'autoriser ou d'interdire les avortements. Le Mali tourne encore un peu plus le dos à la France. Bamako vient de rompre les accords de défense signés avec Paris depuis 2013, annonce hier soir du porte-parole du gouvernement malien, qui justifie cette décision par des atteintes flagrantes à la souveraineté du Mali. Cette mesure prend effet immédiatement pour les accords encadrant la présence des forces Barkhane sur place, ce qui pose de nombreuses questions. Certes, les militaires français ont déjà engagé leur retrait du pays, mais il est loin d'être achevé. Cette opération sensible doit théoriquement s'échelonner sur 4 à 6 mois.
Il est 8h04 en France. Le socialiste Stéphane Le Foll avertit Alexis ce matin ses camarades du PS.
En cas d'union avec la France insoumise, des électeurs socialistes vont s'abstenir ou voter Macron, prévient le maire du Mans, proche de François Hollande, dans les colonnes du Parisien. Vous l'aurez compris, il s'oppose au rapprochement avec la France insoumise en vue des législatives. Un accord qui se fait toujours attendre ce matin. Julie Drouin, les négociations de la nuit n'ont pas encore abouti entre insoumis, socialistes et communistes.
Les discussions ont d'abord commencé à 3 en début d'après-midi, et puis à 22h sont arrivés les communistes avec leur proposition pour agrémenter le programme commun, une discussion quadripartite qui n'aura duré qu'une heure. Le chef de la délégation PCF, Igor Zamichei.
Ça a permis justement de discuter ensemble, et on a vu et on l'a salué dans la discussion que le Parti Socialiste avait évolué par exemple sur un certain nombre de sujets programmatiques. On sent que sur la question des circonscriptions, que la simple règle mathématique de répartition à la proportion ne peut pas correspondre aux dynamiques territoriales qu'il y a. Tout ça, c'est des points d'appui. Maintenant, il faut que sur l'ensemble des propositions, les partenaires puissent se positionner.
Laisser à chacun le temps de la réflexion, c'est aussi ce qu'ont fait les Verts, qui ont quitté les négociations une heure plus tard. Pour Julien Bayou, la balle est entre les mains des socialistes.
On a pu acter des convergences majeures sur l'idée d'une bannière commune, sur le projet, et donc ça doit discuter. On laisse nos amis socialistes et insoumis attaquer le concret. on va les laisser travailler. Et même la répartition géographique, c'est une très bonne chose. On se félicite pour Europe Écologie Les Verts d'avoir aussi préparé un peu le terrain sur la coalition, sur le projet, sur l'Europe, sur toutes ces convergences. On les laisse un peu travailler. La bonne nouvelle, c'est que ça avance et ça avance bien.
Cela avance doucement mais sûrement, comme le répètent les négociateurs depuis plusieurs jours. Mais l'accord, lui, se fait toujours attendre. Reprise des discussions ce matin.
Voilà, ça discute toujours à gauche et ça se tend entre la Macronie et ses alliés. La majorité sortante essaye tant bien que mal de se mettre en ordre de marche pour le mois de juin. Une première liste de candidats doit être rendue publique d'ici à demain. Emmanuel Macron valide lui-même les investitures l'une après l'autre. Les réunions de préparation se tiennent à l'Élysée. Et Édouard Philippe n'y est toujours pas convié. L'ancien Premier ministre et son parti Horizon ne sont plus en odeur de sainteté, c'est le moins que l'on puisse dire, Maxence Lambrecq.
Certains veulent tous les tuer, jusqu'au dernier. Le vocabulaire employé en coulisses à l'encontre des amis d'Édouard Philippe témoigne de la tension du moment. Assimilé ici à des djihadistes qui se dissimulent dans la foule, là à des traîtres prêts à faire tomber le président. Mais Édouard est inénervable, répète en boucle son entourage. Il ne veut piquer la place de personne, simplement avoir un groupe à l'Assemblée. Il aura le strict minimum, croit savoir un ministre. Aucun accord formel n'a pour l'instant été trouvé. Quoi qu'il en soit, il y aura au moins 50 candidats Horizon pour que le jeune parti bénéficie d'une dotation publique pendant 5 ans.
Il faut voir grand pour faire la France. Et je vous propose, mesdames et messieurs, de le faire ensemble.
Certains poussent Emmanuel Macron à frapper fort tout de suite en refusant d'investir les députés En Marche susceptibles de basculer dans la future écurie présidentielle, notamment ceux qui étaient au Havre en octobre dernier.
Il y a des personnalités qui nous font l'amitié d'être là ce matin et leur présence veut dire beaucoup.
Sandra Motin, Naïma Moutchou, Valérie Petit, des inconnus dont le président peut rayer les noms sans souci, admet un de ses amis. En fait, le problème, c'est qu'Edouard a autour de lui des barons qui veulent garder leur mairie.
160 maires.
Et non de puissants soldats prêts à tout pour lui.
Maxence Lambrecq, et à l'instar de la présidentielle, cette campagne des législatives va sans doute beaucoup tourné autour du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a déjà promis un chèque alimentaire face à l'inflation galopante. Voilà ce qu'il en disait le 22 mars.
Nous allons être confrontés à une crise alimentaire mondiale. Et donc la France va prendre l'initiative de porter une réponse concertée en européen. Et donc qu'est-ce qu'on va faire à court terme? Un peu la même chose que sur l'énergie. Moi je veux mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts, à inciter aussi plutôt à acheter en circuit court et à acheter français. Et permettre qu'une partie légitime soit répercutée.
Alors, qui serait concerné par cette mesure d'urgence? À combien pourrait-elle s'élever? C'est la suite de notre série sur les chantiers du président Macron. Début de réponse ce matin avec Mariam El Kurdi.
8 millions de personnes concernées par ce chèque alimentaire. Le montant précis n'est pas encore fixé, entre 30 et 60 euros. Mais rien de tranché. L'objectif, c'est d'aider les plus démunis à remplir leur caddie de produits de qualité. Boris Tavernier, porte-parole de l'association VRAC, qui organise des ventes de produits locaux et bio à prix accessible pour les habitants des quartiers populaires. Le chèque alimentaire, pour lui, c'est une bonne mesure, même s'il souligne les zones de flou.
Pour la première fois, on ne lit plus l'aide alimentaire au gaspillage, aux invendus, parce que c'est un peu le constat, les pauvres ont droit au reste, donc c'est déjà un premier pas qui est assez intéressant. Ensuite, tout ça est très flou. On ne sait pas vers qui on pourra utiliser ces chèques. Est-ce que c'est dans la grande distribution? Est-ce que c'est auprès de paysans de circuits courts?
Si Emmanuel Macron promet de favoriser les circuits courts, il n'en a pas précisé les modalités. Du coup, Nathalie Bedel, productrice de fromage de chèvre bio à Longes, près de Lyon, s'interroge.
Quand on travaille en local avec des petites fermes qui ont aussi des salariés locaux, on crée en fait tout un tissu social. En fait, on se soutient mutuellement. Dans ce sens-là, c'est bien si ce n'est que pour ça. Je ne vois pas comment on peut faire ça si ces chèques peuvent être utilisés dans des grandes enseignes.
Autre inconnue, la manière dont sera distribué ce chèque alimentaire. Discussion encore en cours.
Mariam El Kurdi et la suite de notre série. Demain, on s'intéressera à la solidarité à la source. Voilà pour les mesures d'urgence à court terme. Mais contre la flambée des prix qu'entraîne la guerre en Ukraine, les pouvoirs publics disposent d'un autre outil très puissant, agir sur les taux d'intérêt. Les augmenter permettent théoriquement de modérer la demande et donc de ralentir la hausse des prix. Les patrons de la Banque Centrale Américaine se réunissent aujourd'hui et demain face à la flambée actuelle. La Fed devrait appuyer franchement sur le bouton en relevant ses taux directeurs à 0,75 voire 1%, 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Et Delphine Simon, la Banque Centrale Européenne pourrait bien suivre d'ici quelques mois.
L'inflation, dragon endormi, s'est réveillée. Selon les dernières statistiques, la hausse des prix atteint 7,5% dans la zone euro, 4,5% en France. Pour faire baisser l'inflation, augmenter les taux d'intérêt, est-ce le bon outil, s'interrogent les économistes. Car à la fin, ce sont les ménages et les entreprises qui vont payer la facture. Un tour de vis qui va renchérir le crédit, peser sur la consommation et les investissements. Le risque, c'est de paralyser l'économie alors que l'inflation est due en bonne partie au prix des matières premières. Le jeu en vaut-il la chandelle? Si l'inflation reste élevée, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, juge possible une remontée des taux directeurs cet été, d'autant que l'euro décroche, il vaut désormais à peine plus qu'un dollar de l'inflation importée. Face à ce décrochage très lourd, la BCE pourrait décider de soutenir la monnaie unique, de faire remonter les taux de change. Jeudi, la Banque d'Angleterre pourrait suivre le même mouvement alors que le Royaume-Uni est en quasi-récession.
Cette inflation en grande partie liée au conflit en Ukraine. L'Ukraine ou Odessa a une nouvelle fois été ciblée par les forces russes pour la deuxième fois en trois jours. Un missile a visé un immeuble hier de cette grande ville portuaire du Sud. Il y a au moins un mort, un adolescent de 15 ans. Les Ukrainiens qui tentent parfois le tout pour repousser les troupes ennemies. Notre envoyée spéciale Mathilde Dehimi a pu s'en rendre compte dans une zone récemment libérée près de Kiev. L'armée ukrainienne y a détruit un pont et une digue près d'un grand lac. Un village s'est donc retrouvé complètement inondé et les bombardements russes n'ont rien arrangé. Aujourd'hui encore, des habitants ont des pieds dans l'eau. Reportage.
Lydia a vécu 3 semaines dans sa cave, seule avec ses chiens, avant de fuir quand les soldats russes sont arrivés. En rentrant, elle ne peut que constater les dégâts dans sa cave.
Il y avait de l'eau jusqu'au plafond de la cave, 3 mètres de haut, et là, c'est à peine descendu. J'avais stocké des pommes de terre, des conserves et beaucoup en verre. J'ai tout perdu.
En quittant le village, les soldats russes ont détruit le barrage en amont, aggravant les inondations provoquées volontairement par la défense ukrainienne. Depuis, Lydia attend de l'aide.
Partout ici, les soldats russes ont posé des mines. On nous a dit de marcher avec beaucoup de précautions.
Dans la dernière maison, au pied de la grande digue, Natalia et Ivan sont restés pendant l'occupation russe.
Leurs blindés sont passés juste ici, ils allaient très vite.
Le village de Demidiv s'est retrouvé isolé, mais Natalia n'y voit pas un sacrifice.
Maintenant, et Dieu merci, peut-être qu'on a sauvé Kiev par ça. Si on n'avait pas été protégés par les eaux, qui sait ce qu'il se serait passé?
La route directe de Kiev a ainsi été coupée, mais en se détournant, les Russes sont entrés dans Boutcha.
Mathilde Demi et Eric Audra, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. La Russie en rouge vif sur la carte de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. L'ONG publie ce matin son rapport annuel. Moscou classé 155e sur 180, notamment à cause de la désinformation et de la guerre de propagande menée par le Kremlin. Mais c'est la Chine qui s'effondre le plus dans ce classement, du 80e au 148e rang mondial. La crise Covid et la censure qui l'ont accompagné en sont l'une des raisons.
Il est 8h13, un mouchard dans nos voitures.
Depuis dimanche, depuis le 1er mai, les véhicules neufs qui sortent des usines doivent obligatoirement être équipés de boîtes noires, en tout cas pour les clients européens, un peu comme les avions ou les poids lourds. Ce petit enregistreur de données est capable de mémoriser des informations sur notre conduite, notamment Yann Gallic en cas d'accident.
Ce petit boîtier équipé d'une puce électronique enregistrera la vitesse, les paramètres de freinage, la position GPS, l'inclinaison du véhicule sur la route. La boîte noire mémorisera ces données pendant les 30 secondes qui précèdent un choc. En cas d'accident, seules les forces de l'ordre pourront y avoir accès. Vincent Jullet-Parade est avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route.
Les données que nous fournirons les boîtes noires permettront, dans le cadre de procès, en discussion autour des responsabilités des accidents de circulation, de mieux identifier, par exemple, le conducteur qui déboîtera sans avoir mis son clignotant, ou encore la vitesse précise au moment d'un accident. Ce sont des données qui sont très subjectives, qu'on a beaucoup de mal à établir et à connaître actuellement. Ça permettra de simplifier les procédures.
Certains doutent de l'efficacité réelle de ce nouveau dispositif, à l'image de Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
On n'aura que quelques données, notamment sur la vitesse du véhicule, qui n'apporteront pas toutes les précisions de l'accident, puisqu'on passe à côté tout le reste, notamment les refus de priorité, l'usage du téléphone portable au volant. Finalement, ça n'apportera strictement rien, si ce n'est un coût supplémentaire sur les véhicules.
À partir de 2024, ces boîtes noires deviendront également obligatoires pour toutes les voitures d'occasion, avec un impact sur le prix de vente. Le coût supplémentaire pourrait s'élever à plusieurs centaines d'euros.
Eux n'ont pas choisi la voiture et ils ont troqué la soutane pour le maillot moulant. Direction l'Ardèche pour le championnat de France cycliste du clergé. 71 prêtres et religieux sur des vélos pour une drôle de course. Willy Moreau a assisté à la première étape hier.
Derniers encouragements avant la ligne d'arrivée devant la mairie de Cruas. Les prêtres penchés sur leur vélo, casque sur la tête, combinaison moulante. L'image fait sourire certains.
C'est pas souvent que je vois des prêtres faire des courses, quoi. C'est la première fois. C'est très sympa.
Les supporters sont impressionnés.
Oh, Pierre Charignon, il a monté la côte, no problème. Hein.
Et un peu plus loin, assis à l'ombre, Jean-Pierre se rassure. Il compare son ventre à ceux des prêtres.
Monsieur là-bas, par exemple, je suis content parce que je suis pas seul à être lourd et des embonpoints.
Des embonpoints, mais il y a aussi des sportifs. Certains participants se sont bien préparés.
Je fais 22 km par jour.
Mathieu est diacre près d'Angers.
Je fais 11 km en vélo pour aller à la gare d'Angers, pour prendre mon train pour Saumur. Et le soir, même chose. En tout cas, moi, c'est un équilibre de vie avec la prière.
Une bonne préparation et pourtant, à l'arrivée...
J'en ai bavé, très honnêtement. Si. Super course. Le vent est casse-pied, mais c'est la seule chose qui est casse-pied.
Vent de face sur plus de 12 km le long du Rhône. L'évêque d'Autun en Saône-et-Loire, Monseigneur Rivière, accuse le coup.
Je vais m'asseoir un peu parce que le soleil...
Les organisateurs apportent de l'eau, l'heure de se dégourdir les jambes en chantant.
Et sachez, Nicolas, que c'est un local de l'étape, un prêtre de Montélimar, qui a remporté ce contre-la-montre hier. Reportage signé France Bleu de Romardèche.
Merci Alexis Morel. La messe du 8h10, il est 8h16.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et la météo de Stéphanie Fromentin, matinée encore calme, Stéphanie.
Avec quelques nuages qui engrisaillent le ciel des côtes aquitaines, des Alpes et des Pyrénées, et déjà quelques gouttes au pied des Pyrénées. En revanche, sur la moitié nord, le soleil est omniprésent au réveil, à peine contrarié par un léger voile nuageux. Cet après-midi, un large quart nord-ouest ainsi que les zones côtières de la Méditerranée conserveront un ciel bien lumineux, tandis que ce ciel sans nuages partout ailleurs, offrant même parfois des averses. Averses parfois orageuses qui vont se développer dans un premier temps sur le relief pour glisser avant la fin de la journée jusqu'en plaine.
Et les températures sont stationnaires et de saison.
Et le réveil est à peine frais. 4 à 9 degrés sur la moitié nord, 9 à 15 plus au sud. Il fait 5 degrés à Béthune, 9 à Nantes, Manosque et Chambéry. Déjà 13 à Béziers et 14 à Perpignan. En cours de journée, les valeurs grimpent pour s'afficher entre 14 et 18 degrés de la Bretagne à la frontière belge. 19 à 23 degrés ailleurs. Il fera 15 degrés à Cherbourg et Cancale, 20 à Paris, Albi ou Verdun. 21 à Colmar et Toulon, 23 à Alès. Mais 18 degrés à Amiens ou Bordère dans les Pyrénées-Atlantiques.
Merci Stéphanie. Géopolitique.